Et il est 19h23.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il suffit de se pencher sur la plateforme numérique de la réforme des retraites pour comprendre que le sujet est épineux, ça on le savait, pour comprendre aussi que vous êtes inquiet de ce qui adviendra de votre traitement une fois votre carrière finie, nombreux à ne pas avoir réellement compris ce qui allait se passer pour vous, nombreux à se poser des questions très spécifiques sur des cas spécifiques, le vôtre, parce que aligner les régimes des retraites, c'est aussi pour beaucoup d'entre vous lisser des réalités qui sont toutes différentes. Des réunions de concertation, il y en a eu, il y en aura encore. Jean-Paul Delevoye, qui est avec nous ce soir, est en Tour de France d'explication. Des dizaines de réunions, il y en aura dans les jours et les semaines à venir. Il suffit de se pencher sur cette plateforme numérique pour comprendre aussi que parfois le ton a changé, les thèmes ont bougé. Il est beaucoup question aujourd'hui de régimes spéciaux. Vous avez beaucoup entendu parler de la fameuse clause du grand-père qui ferait ou pas entrer dans le nouveau système les nouveaux entrants dans l'entreprise. On parle notamment de SNCF et de RATP. Le gouvernement pourrait y être favorable, ce qui n'est pas forcément le cas du haut-commissaire. Il nous le confirmera ou pas. En tout cas, on verra si le sujet arrive sur la question grâce à vous au 01 45 24 7000. On sait aussi qu'une mobilisation est proche, ce sera le 5 décembre prochain, peut-être qu'elle fera tache d'huile ou pas du tout. Les retraites, dossier épineux, on le savait, dossier inflammable tout le temps de toute façon. Profitez du haut-commissaire puisqu'il est là pour vous jusqu'à 20h. Monsieur Delevoye, merci beaucoup et bonsoir.
Merci à vous et bonsoir.
On est parti.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, celui qui commence ce soir, ce téléphone sonne, c'est vous, Bernard. Vous êtes à Lille. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors voilà, je vais vous parler un peu de ma situation. Quand je me suis engagé dans l'éducation nationale, j'avais au niveau de l'État une parole qui m'avait été donnée et qui consistait à me dire que si je respectais mon engagement décennal, je pouvais prendre ma retraite à 55 ans. Or, au fur et à mesure des années, j'ai vu les annuités s'ajouter, l'âge de départ à la retraite s'éloigner. J'ai actuellement 61 ans et je suis toujours au travail. J'ai un salaire qui frôle les 2000 euros. Et si je prenais ma retraite cette année, j'ai encore une décote de 9%. Alors j'ai deux questions à poser à Monsieur Delevoye. La première, ça serait quel crédit accorder à la parole de l'État en ce qui concerne ses engagements pour la retraite? Et la seconde, c'est pourquoi systématiquement les alignements sont faits au moins 10 ans social, en faisant passer les gens qui ont un statut particulier pour des privilégiés. Ça commence à devenir vraiment fatigant.
Eh ben,
et dernier petit détail.
Ah, pardon, il y a toujours un petit détail qui tue derrière. Allez-y, il y a toujours un dernier détail qui tue, Bernard,
voilà,
mais allez-y.
Non, mais un petit détail. J'ai une section de grands en maternelle et j'ai 28 élèves cette année, alors que M. Macron s'était engagé à 24.
Alors, voilà. Et là-dessus, je pense qu'on ne va pas embêter Jean-Paul Delevoye sur les classes trop remplies ou pas. Je voudrais que vous puissiez répondre d'abord à cette idée qu'à Bernard, il y en a d'autres qui sont comme ça, Jean-Paul Delevoye, qui parlent de la promesse donnée en entrée, au fond, dans l'entreprise, c'est au fond ce qu'on disait aussi en introduction, et une promesse qui est difficile à tenir pour l'État quand le temps passe.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons mettre en place ce système universel, parce qu'on s'aperçoit que depuis 1980, en réalité, il n'y a que des réformes successives qui ont modifié les conditions de sortie, soit on allongeait la durée de cotisation, c'était... La dernière, c'est la réforme Marisol Touraine, de 42 ans de cotisation pour être à taux plein, ou la réforme d'Éric Woerth, la dernière, qui a reculé de 60 à 62 ans le départ à la retraite. Toutes ces réformes, d'ailleurs, étant entourées d'un discours extrêmement anxiogène, si on la fait pas, c'est foutu et c'est la dernière. Résultat, ce discours anxiogène...
Ce qu'on entend aussi cette fois.
Vous l'entendez pas. Vous n'avez entendu aucun discours anxiogène. Je serais intéressé, vous n'avez entendu aucun membre du gouvernement, aucun politique dire « si on ne la fait pas, c'est foutu ». On a dit « on veut mettre en place ». Attendez, parce que ça n'est pas une réforme, c'est la mise en place d'un système universel de retraite qui a pour but de confier la gouvernance à un équilibre entre le gouvernement, le Parlement et les partenaires sociaux. Pour justement éviter ce que Bernard regrette, c'est que tous les 10 ans, tous les 5 ans, on change un des paramètres qui fait que ce qu'il estime le contrat, effectivement, a complètement changé. Mais c'est vrai pour l'ensemble des salariés, privés, publics et régimes spéciaux. Puisque quand on en parle, les régimes spéciaux ont aussi été amenés à aller vers la convergence des durées de cotisation. Second élément que dit Monsieur Bernard, c'est une décote à 9%. Or là aussi, dans le régime universel que nous voulons plus juste, il y a un souci. Il y a en réalité 5 types d'âge. pardonnez-moi d'être un peu technique, il y a l'âge légal minima, en dessous duquel on ne peut pas prendre ce départ à la retraite, c'est 62 ans. Mmh. Il y a l'âge de liquidation de votre retraite, c'est l'âge auquel vous partez à la retraite. Il y a l'âge de taux plein, 42 ans, j'y reviendrai. Mmh. Il y a la notion d'âge d'équilibre, c'est là où les montants des cotisations correspondent au montant des pensions. Et puis l'âge d'annulation de la décote, 67 ans, qui concerne 20% des femmes parce qu'elles ont des carrières heurtées, courtes et précaires. Et nous voulons justement rétablir cet équilibre autour de 64 ans. Et Bernard, qui rentre tard sur le métier parce qu'il a fait des études longues, probablement, eh bien, si vous rentrez à 25 ans plus 22 ans de cotisation, vous êtes obligé d'aller jusqu'à 67 ans. Mmh. Et si vous prenez votre retraite avant, eh bien, vous avez 5% de décote par an.
Mais du coup, puisque Bernard a, en quelque sorte, mis les pieds dans le plat, vous l'avez évoqué aussi, on y reviendra, j'imagine, au cours de cette émission, quand on parle de régimes spéciaux, parce que c'est ce qui est pas le cas de Bernard, on a bien compris, mais c'est ce qui inquiète aussi les gens. On compte à partir de quel moment, finalement ? À la fin, on compte à partir de quel moment ? Est-ce qu'on est dans un nouveau système dès qu'on entre dans l'entreprise ? Est-ce qu'on est dans le nouveau système puisqu'on est déjà dans l'entreprise ? Est-ce qu'on va faire une sorte de système un peu fluide où ceux qui ont tel âge n'auront pas le nouveau système ? Ceux qui ont un autre âge auront le nouveau système ? Comment ça s'organise pour les gens qui sont déjà à l'intérieur des entreprises et qui disent la même chose que Bernard ? On m'a promis... Et c'est pour ça que je suis rentré dans cette entreprise, une retraite avant 60 ans. Aujourd'hui, on ne me le promet le plus.
Oui, mais on s'aperçoit qu'aucune promesse n'a été tenue. Parce que tout simplement, l'espérance de vie a augmenté, parce que c'est un rapport entre cotisation et nombre de retraités. Ce que nous proposons, nous, c'est au contraire un contrat extrêmement clair. Nous garantissons 100% des droits acquis. Si je prends, pour être tout à fait simple, vous avez 20 ans dans une entreprise. Nous calculons ce que vous avez constitué comme droit au bout de 20 ans sur le système actuel. Nous garantissons 100% de ces droits et nous basculons dans le nouveau système. Et là, vous basculez dans le calcul du nouveau système. Donc les choses sont très claires, très précises. Et le système à point que nous mettons a l'avantage d'être extrêmement lisible. Dès que vous avez un salaire, dès que vous avez un revenu, vous acquérez des points. Vous avez un capital point qui s'additionne tous les ans et in fine, à la fin, c'est vous qui décidez de partir en fonction de l'arbitrage du niveau de votre pension et de la durée de cotisation. Et donc, dans le système actuel, c'est un système où il y a 42 règles, 42 régimes. Si vous multipliez vos parcours professionnels, je ne sais pas ce qu'a fait Bernard, il est professeur et peut-être qu'il est écrivain et peut-être etc. À chaque fois qu'il a des revenus, des activités, c'est une perte en termes de droits et les trimestres que l'on acquiert sont aujourd'hui pour 20% des droits inutiles. Le système que nous mettons en place, c'est la reconnaissance du travail. C'est les mêmes règles pour tous. Quand vous parlez de la plateforme, le numéro 1 en termes de revendication, c'est on veut un système universel avec les mêmes règles pour tous. Et que vous soyez enseignant, que vous soyez... Regardez, une des grandes injustices, c'est que dans les enseignants, dans les fonctions publiques, vous ne cotisez pas, comme les salariés du privé, sur la totalité de votre salaire. Vos primes ne sont pas sur l'assiette. Mais dans l'affaire des primes, les enseignants sont perdants. C'est pour ça que nous mettons en place une réflexion sur les accompagnements pour une revalorisation salariale de la carrière des enseignants.
Et vous parlez de la plateforme et quel sera le nombre de points attribués pour les années d'études supérieures, sachant que l'équité de traitement des citoyens exige que celle-ci soit prise en compte. Quid des enseignants dont la retraite actuelle est calculée sur les 6 derniers mois et permet de compenser partiellement la faiblesse du salaire, etc., etc. Il y a aussi beaucoup de choses. Oui, oui.
Non, partiellement. Mais, il y a aussi beaucoup de choses.
Jean-Paul Delevoye, il y a aussi beaucoup de choses sur cette plateforme qui sont des questions et qui montrent qu'il y a une difficulté parfois de compréhension sur le fond comme sur la forme. Moi, j'y tiens à ma question sur notamment les régimes spéciaux et à quel moment on le fait rentrer en ligne de compte, mais je veux pas qu'on oublie les auditeurs, on y reviendra, c'est Michel le suivant. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
On vous écoute. Allô, Michel, allez-y, ouais, on vous entend.
Bonsoir. Oui, donc moi je vous appelle parce que je suis retraité de la fonction publique hospitalière, donc j'ai vécu ça il y a très peu de temps, et moi ce qui me dérange un peu, c'est on veut mettre tout le monde à égalité, pourquoi pas, on peut pas être contre. Par contre, il faut réellement mettre tout le monde à égalité. Actuellement, je vais parler de ce que je connais, donc par exemple d'une infirmière. Une infirmière qui travaille dans le privé rentre à son boulot avec un salaire très bas et monte d'une manière linéaire jusqu'à la retraite où elle a environ 2,5 fois le salaire qu'elle avait à ses débuts. Une infirmière qui rentre dans le privé rentre avec un salaire déjà conséquent qui évolue très peu. Ce qui fait que si on calcule sur les 25 meilleures années, l'infirmière du privé va avoir en gros son salaire de sortie complet, alors que l'infirmière du public va avoir la moitié de son salaire de sortie, ce qui va faire une énorme différence à la sortie au niveau de la pension de retraite. Avec des chiffres tout bêtes, une infirmière qui rentre à 1200 euros sort à 2005, sur 25 ans, sa retraite sera calculée sur 1007. Une infirmière dans le privé qui rentre à 2000 euros finit à 2005, sur 25 ans, sa retraite sera calculée sur 2002.
Voilà, donc moins égalitaire que théoriquement ne le veut la réforme. C'est ce que vous dites, Michel, si j'ai compris le sens de votre question.
Si les infirmières rentraient au même salaire dans le public que dans le privé, il n'y aurait pas du tout de problème. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, Michel. Jean-Paul Delevoye pour répondre à l'interrogation
de Michel. Michel pose des questions sur l'égalité ou les inégalités. Si vous allez plus loin, si vous êtes en travail de nuit, dans le secteur privé, c'est 8 heures, dans le secteur public, c'est 10 heures. Et on compte une nuit pour la pénibilité, donc c'est pas du tout la même chose. Et ce que met en avant Michel, c'est que le contrat pour la fonction publique, pour beaucoup de fonctionnaires, a été de dire « on vous sous-paye pendant toute votre carrière ». Mais vous inquiétez pas, à la fin, vous aurez une bonne retraite. Ce contrat doit être complètement bouleversé. Il faut qu'on vienne aujourd'hui sur des salaires normaux pour avoir une retraite normale. Je reviens sur les enseignants. Les enseignants sont des cadres A. Le cadre A classique, il a 30% de prime. L'enseignant, il a 9%. Sur toute sa carrière, le cadre A va gagner 21% de plus que l'enseignant. In fine, à la fin, il aura la même retraite. Mais pendant toute la carrière, l'enseignant aura perdu de l'argent par rapport à ce cadre A. Donc ce que nous voulons corriger, c'est l'opportunité que met en avant ce système universel des retraites. Parce qu'on parle beaucoup des retraites, parce qu'on a posé le débat. Tout le monde s'intéresse à sa situation. Et tout le monde s'intéresse, est-ce que le système actuel est juste?
Bien sûr, est juste pour moi, et c'est une question légitime.
Il n'est pas juste, il est complexe, il est illisible. Et il ne correspond pas à la mobilité professionnelle d'aujourd'hui, parce que les professions vont changer. Vous allez faire plusieurs métiers tout au long de votre carrière. Et donc le fait de vouloir accompagner vos parcours dans cette diversité et que votre retraite soit calculée comme celle du voisin, c'est une demande très forte d'équité, d'avoir les mêmes règles pour tous.
Agathe, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Agathe.
Merci. Monsieur Delevoye, on comprend de votre projet que vous allez baser l'âge pivot à 64 ans en 2025.
Bonjour, Agathe.
Bonjour, mais que cet âge pivot, il va se déplacer dans le temps, donc il va se décaler d'année en année pour atteindre, pour une personne qui est née dans les années 90 comme moi, un âge de 67 ans, voire au-delà. Donc moi, ce que je comprends, c'est que vous demandez aujourd'hui à une institutrice, à une infirmière, à un conducteur de poids lourd de travailler jusqu'à 67 ans et plus pour obtenir un bon niveau de retraite, alors qu'on sait que l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne à 63 ans aujourd'hui. Ça veut dire que vous voulez réduire notre temps de retraite en bonne santé, en fait. Est-ce que pour vous, c'est souhaitable et possible de travailler dans ces conditions jusqu'à un âge avancé? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la retraite, être malade à la retraite dès sa prise de retraite?
C'était la fin de la question. Merci beaucoup, Agathe.
Est-ce que vous m'autorisez à comparer le système actuel et voir si ce que nous proposons est une amélioration? Dans le système actuel, la durée de cotisation pour avoir l'âge à taux plein est de 42 années de cotisation. C'est-à-dire que si vous rentrez en tant qu'enseignante à 24 ans ou 25 ans, il faut que vous alliez jusqu'à 66 ans ou 67 ans dans le système actuel. Et si jamais vous décidiez de partir à 62 ans, vous auriez 5 années de décote, ce qui fait 5 fois 5, 25%, plafonné à 25%. La proposition que nous formulons, c'est autour de l'âge pivot, de faire en sorte que ce soit cet âge qui soit l'annulation de la décote. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme vous, qui serait rentré tard par des études longues, pourrait dès l'âge de 64 ans, décider, s'il le souhaitait, de pouvoir partir à la retraite sans décote. Et donc c'est une amélioration assez considérable. Ça a aussi l'avantage pour les femmes qui ont des carrières précaires, des carrières heurtées, des carrières à temps partiel. Au lieu d'être obligé d'aller jusqu'à 67 ans parce que on a peur d'avoir une petite retraite encore diminuée, elle pourrait aussi avant l'annulation de la décote à partir de 64 ans. Donc ce que nous proposons, c'est au contraire un contrat extrêmement clair autour d'un âge pivot qui effectivement évoluerait en fonction de l'âge de vie, l'espérance de vie, mais qui ferait que la tranche d'âge, vous apprenez pendant 20 ans, vous travaillez pendant 40 ans ou 42 ans et vous avez une retraite pendant 20 ou 25 ans, resterait le même. Si vous rentrez plus tard sur le marché du travail, vous partez un peu plus tard, à moins que si vous décidiez de partir avant, c'est effectivement avec une retraite diminuée, un tout petit peu diminuée.
Et ce que dit Agathe aussi, c'est qu'il y a une différence, on a l'impression qu'on fait ses calculs sur l'espérance de vie, effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est aussi ce qu'on a entendu, et on sait bien qu'il faudra, je cite le président de la République, qui dit on va sans doute vers un modèle où on devra travailler un peu plus, on parle de l'espérance de vie, Agathe nous parle de l'espérance de vie en bonne santé. Ce sont deux choses qui, pour beaucoup de gens qui travaillent, et en particulier ceux qui ont des travaux pénibles, ce sont deux choses qui sont extrêmement différentes.
C'est la raison pour laquelle la mise en place du régime universel permettra, pour les catégories actives que l'on va faire disparaître, de pouvoir embarquer la pénibilité, ce qui n'existe pas dans le secteur public, et qui permet donc de pouvoir partir 2 ans plus tôt. On va aussi pouvoir, par l'harmonisation des règles, apporter une réponse que je crois plus juste en termes d'invalidité. Vous savez que si vous êtes dans le privé, vous êtes déclaré invalide, vous percevez une pension d'invalidité jusqu'au moment de votre retraite et là, vous basculez à la retraite. Si vous êtes dans le secteur public, très souvent et quelquefois pour des raisons de séparation, on vous met immédiatement à la retraite précoce, ce qui vous interdit de continuer à acquérir des points si vous retrouvez d'activité et qui vous permet éventuellement, si vous retrouvez une certaine capacité, d'être interdit d'activité. Là, nous allons harmoniser les règles et faire en sorte que si vous êtes invalide, y compris dans le secteur public, vous puissiez aller jusqu'à votre retraite en touchant une pension d'invalidité. Donc, on voit bien que le public n'est pas toujours avantagé. Contrairement à ce que l'on croit, si vous avez des enfants, vous touchez moins de trimestres dans le secteur public que dans le secteur privé. La mise en place d'un régime universel permettra justement d'avoir les règles identiques pour tout le monde.
Il y a beaucoup, beaucoup de questions et qui sont très précises sur un certain nombre de professions. 4 emails sur franceinter.fr. Anne, Gérard, Jean-Louis, Pierre, quid du régime autonome spécial, celui des avocats, qui ont cotisé pendant des années. Le système existe depuis 1948. C'est assez malhonnête, c'est ce que dit l'un de ces emails sur franceinter.fr. Il faut que les gens comprennent bien qu'on est dans on n'est pas dans un régime spécial, on est dans un régime autonome. Est-ce qu'il y a oui, des professions comme celle-là, notamment la profession d'avocat, c'est peut-être ce qui avait été dit d'ailleurs, souvenez-vous, M. Delevaux, au début de la présentation de cette réforme, qui, oui, font partie des professions, qui sont des professions qui perdront dans cette réforme.
Il y a, dans les 30 millions d'actifs, il y a 70% des salariés du privé, pour lequel nous allons apporter une amélioration pour les 40% des retraites les plus faibles, avec des droits pour les femmes, pour les enfants, qui vont très nettement améliorer la situation actuelle. Vous avez 20% de fonctionnaires dont on vient de parler pour en partie. Il y a les régimes spéciaux, la RATP, etc. Il y a l'hôpital, il y a l'éducation nationale. Et puis il y a 10% de ce qu'on appelle les indépendants, les commerçants, etc. 3 millions. Sur les 3 millions, il y a 2 millions d'artisans commerçants qui nous ont indiqué qu'ils étaient favorables à la mise en place de ce régime universel parce que c'est pas de charges supplémentaires et plus de droits. Vous avez 500 ou 600 000 agriculteurs qui, là aussi, y trouvent un certain nombre d'avantages. Et puis, vous avez 600 000 indépendants, 200 000 auxiliaires médicaux qui, après les simulations qu'on leur a faites et les propositions qu'on leur a faites, y trouvent leur compte. Il y a 60 000 avocats. 60 000 avocats qui sont partis immédiatement en réaction sous couvert d'un argument qui consistait à dire vous doublez les cotisations.
Ah oui, on passe de 14 à 28.
On passe de 14 à 28 et derrière, ils laissaient entendre que l'on allait donc doubler les charges et donc diviser par deux le nombre de cabinets. Nous avions dès le départ fait des propositions et aujourd'hui les simulations sont très clairement sur la table pour montrer que cette augmentation de cotisations ne s'accompagne pas d'une augmentation des charges, mais qu'au contraire nous pouvons trouver et respecter le juste équilibre. C'est une profession qui se féminise, qui se précarise et sur laquelle le combat aujourd'hui des avocats, que l'on peut éventuellement comprendre, c'est de dire « Ok pour un régime universel, mais nous, on reste de côté ». C'est une situation d'autonomie et d'indépendance qui peut, à court terme, peut-être être intéressante. Mais si demain, l'évolution de la profession, est-ce qu'on peut dire à nos enfants et nos petits-enfants, ne vous inquiétez pas, dormez tranquille, l'avenir et la solidité de l'avenir de votre profession garantit l'avenir et la solidité de votre régime de retraite? Je ne le pense pas. Je pense que l'intelligence artificielle, les pratiques professionnelles, chez les experts comptables, qui quelquefois deviennent des conseillers juridiques, dans les professions du droit, de la santé, cela va tellement bouger que ce que nous offrons, c'est la solidité de la solidarité de la nation plutôt que la fragilité d'une solidarité
mais professionnelle. Mais est-ce que ça veut dire oui ou non que certaines de ces catégories, et notamment là les avocats qui ont appelé, mais il y en a d'autres, on parle notamment des notaires, est-ce que ça veut dire que ces gens-là, là maintenant, vont perdre de l'argent? Vous nous dites oui, mais à terme, finalement, ce sera une bonne idée pour les raisons que vous nous avez expliquées, mais est-ce que ça veut dire, soyons très concrets par rapport à la question qui nous a été posée, est-ce que oui ou non, là,
nous avons
au moment où la réforme se mettra en place,
n'était pas perdant.
Et pourquoi nous, on n'a pas droit aux simulations, monsieur Delevoye? Alors, on le voit arriver beaucoup, effectivement, sur la plateforme aussi, pouvoir calculer notre propre retraite.
Les choses sont claires. Nous sommes en train de discuter profession par profession pour leur offrir un chemin de convergence qui montre très clairement les conséquences de l'intégration dans le régime universel, les conséquences sur les cotisations, les conséquences sur les droits, les conséquences sur les pensions. Ces simulations ne peuvent être que collectives. Car comment imaginer que je puisse, pour vous, à titre personnel, vous donner une situation sur votre cas personnel si je ne connais pas tous les paramètres et de la loi et vos paramètres à vous? Ce que nous avons pris comme engagement, c'est que dans l'année qui suit l'application de la loi, chacun aura la faculté d'avoir un simulateur individuel. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les retraités actuels ne sont pas concernés. Et pendant 5 ans, ceux qui sont à 5 ans de la retraite ne sont pas concernés. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir, il y a une capacité de pouvoir calculer un arbitrage entre son âge de départ à la retraite et le niveau de sa pension. Donc les choses sont claires, sont transparentes, sont lisibles et comparables. Et c'est cela qui est une énorme avancée par rapport au système actuel que notre premier intervenant Bernard disait. Je rentre dans une profession et je ne sais pas bien où je vais en termes d'âge, en termes de départ et en termes de niveau de pension.
Et là, précisément, on a Didier qui travaille à la SNCF et qui nous dit « Combien de temps va durer la transition ? J'ai 50 ans, dit-il, je suis agent SNCF. Est-ce que je peux savoir à quel âge je partirai ?»
C'est toutes les discussions que nous avons actuellement, parce qu'effectivement, il y a les principes du système universel et les vraies discussions que nous avons actuellement avec les organisations syndicales, avec les directions,
bien sûr, qui sont en cours.
C'est de dire en combien de temps cela va basculer. Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans? Nous avons commencé à faire des propositions sur 15 ans, voire même plus, sur 30 ans. Vous savez, à la SNCF, il y a ceux qui partent à 52 ans, il y a bien ceux sûr. Qui partent à 57 ans. Et donc, la transition est importante pour notamment les cheminots.
La transition, et pardon de vous interrompre, et à quel moment on fait commencer cette retraite? C'était le sens de ma première question. Est-ce qu'on applique cette fameuse, j'allais dire, directive
clause des grands-pères,
je cherchais le mot, voilà. Clause des grands-pères, ou est-ce qu'on ne l'applique pas? On a l'impression que là-dessus, vous n'êtes pas tout à fait d'accord entre l'exécutif et vous.
Mais le débat fait qu'il y a des termes de débat. Moi, j'affirme ma position, elle a l'avantage d'être claire depuis le départ et d'être constante depuis le départ. Depuis le départ, j'ai indiqué que ma proposition qui figure dans mon rapport, c'est très clairement de dire nous partirons à la génération 63 en 2025. Et ensuite, il appartiendra, par exemple, l'intégration des primes des enseignants, ça ne peut pas se faire à moins de 15 ans, eh bien, il y aura 15 ans de transition. Sur tous les régimes spéciaux qui disparaissent, les catégories actives, la SNCF, la RATP, l'IEG, est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est 20 ans? Est-ce que c'est 30 ans? C'est des choses qui sont sur la table. Et dans mon rapport, il était très clairement écrit que, un, nous avions en termes de discussion, soit on part à la génération 63, soit on réfléchit à partir un peu plus tard, génération 64, 65, 66, soit même, et c'était très clairement écrit, faut-il ne concerner cette réforme que pour les nouveaux entrants. Donc le débat, et c'était inscrit, et nous verrons cela dans la concertation. Donc tout cela est sur la table, les décisions seront prises d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, et là les choses seront claires après un débat, après une concertation. Je rencontre aujourd'hui, j'ai 350 réunions, où je rencontre profession par profession avec les ministres concernés, le point de départ de la situation actuelle, ce vers quoi nous voulons aller et comment pouvons-nous y aller en respectant la dimension identitaire, l'acceptabilité sociale et avec une lisibilité pour le personnel.
Et vous avez senti vous aussi qu'il y avait eu crispation autour de ces sujets-là ces derniers temps. Il y a une grande grève qui commence, une grande ou peut-être, ou petite d'ailleurs, hein, j'en sais rien. Il y a une grève en tout cas qui est censée commencer le 5 décembre prochain. On sent bien qu'il y a là-dessus, sur cette question précisément, une très grande crispation. Est-ce qu'il y a une réelle marge de manœuvre parce que cette pression existe ou pas, sur ces régimes-là particulièrement?
Qu'il y ait des inquiétudes, qu'il y ait des interrogations, qu'il y ait des manifestations pour dire « nous, on a besoin d'explications et on a besoin d'y voir clair ». Tout cela est assez légitime. qu'il y ait des manifestations pour dire, écoutez, votre régime universel, on est d'accord sur les principes. Je rappelle que c'était le thème du Conseil national de la résistance de la Maison commune en 1945. Et de faire en sorte que nous soyons tous concernés par les mêmes règles. Et que les impôts, les contribuables n'aient pas pour habitude ou la perception vraie ou fausse de financer des, ce qu'on pourrait appeler des avantages pour les uns et pour les autres. Si ces manifestations ont pour but de dire on s'oppose à ce régime universel parce qu'on n'en veut pas pour nous, eh bien ça je ne l'entends pas. Car ce qui est important, c'est aujourd'hui de mettre en place quelque chose qui a une visibilité pour nos enfants. Le vrai problème des retraites, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui ne croient plus au régime de retraite. Si nous ne réembarquons pas la confiance des jeunes qui aujourd'hui disent à quoi ça sert de cotiser puisque j'aurai pas de retraite, demain ils auront la même attitude pour l'assurance maladie, ils auront la même attitude pour l'assurance chômage. Et c'est la fin de ce qui fait la force de la nation française. Donc moi, mon combat, c'est pas uniquement pour la mise en place d'un régime universel, c'est comment je renforce la cohésion nationale et que dans un souci de défi, personne ne peut dire ce que sera demain l'évolution du salariat, l'évolution des médias, etc. Personne ne peut garantir la solidité de sa profession. Si nous gardons 42 régimes, ce qui va se passer, c'est que chacun va vouloir défendre sa peau au détriment des autres. Et on aura une société qui est déjà aujourd'hui axée, déchirée, se fragmenter, se déchirer, se fracturer.
Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Nicolas.
J'aimerais poser une question à Monsieur Delevoye, une question précise. J'aimerais savoir qui va calculer la valeur du point et sera-t-il modifiable à la hausse ou à la baisse ?
En voilà une question très précise et très courte. Merci beaucoup Nicolas, Jean-Paul Delevoye.
Mais Nicolas pose la question qui alimente
bien
les doutes.
Évidemment.
Nous avons, alors c'est un peu technique, pardonnez-moi, nous avons pris la décision de fixer une valeur de référence du point qui est dans mon rapport, 10 euros, etc. Donc le point, c'est une base de départ. Est-ce que ce point peut baisser ? La réponse est non. D'abord, on va l'inscrire dans la loi, et ensuite, il est non parce que nous l'indexons sur les salaires. Donc, à moins que les salaires baissent, le point ne peut pas baisser. Et les pensions évolueront sur l'inflation. J'en profite d'ailleurs pour tordre le cou à un argument qui paraît cartésien. Avec la même part de gâteau, le nombre de retraités qui augmente, les pensions baissent. Problème, depuis 10 ans, 2 millions de retraités en plus, 20% d'augmentation des pensions, parce que c'est pas la part du gâteau qui bouge, c'est le gâteau. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, cette référence au point est une référence qui est extrêmement importante. Deuxième point, question précise, qui fixe la valeur du point ?
Qui fixe ? Est-ce qu'il est évolutif ?
Le président de la République. Il est évolutif par rapport à tout. Comme aujourd'hui, les trimestres, les paramètres, les questions. Il ne peut pas baisser. Par contre, il va tenir compte de l'environnement, du nombre des actifs. Est-ce que demain, il faudra réviser les valeurs du PIB ? Parce que le PIB, si demain on intègre la décroissance de consommation, les valeurs du PIB actuelles, faudra être modifiées. Nous donnons tous les éléments d'adaptation du système à celles et ceux qui auront la charge de la gouvernance, c'est-à-dire les partenaires sociaux, le gouvernement et le Parlement. Et le président de la République est allé à Rodez jusqu'à exprimer ce que nous avions proposé dans notre rapport, qu'il y ait un comité d'experts indépendants qui puisse fixer la valeur du point et amener les gouvernants à prendre les décisions qui garantissent l'équilibre financier du système pour éviter que sur les jeunes qui payent la retraite actuelle s'ajoute le poids du fardeau de la dette et du déficit.
Encore une question précise, c'est celle de Anne. Bonsoir Anne, allez-y.
Oui, bonsoir Monsieur le Ministre. Je veux une question
bonsoir,
sur
Anne.
Le cumul emploi-retraite.
Ah, oui.
Donc aujourd'hui, quand on retravaille à la retraite, on n'accumule pas de... à nouveau de points pour enrichir notre retraite. Donc ma question est la suivante, est-ce que ce système va évoluer ? En fait, souvent quand on arrive à un certain âge dans les entreprises, on commence à être un petit peu bloqué en termes d'augmentation et de primes. Donc on aurait tendance à vouloir partir à la retraite et à reprendre un autre emploi. Et par contre, on est bloqué parce qu'on n'acquiert pas à nouveau de points au moment de la retraite. Donc ma question, est-ce que ça va évoluer en fait ?
Merci beaucoup pour votre question, Anne. Jean-Paul Delevoye.
Anne, oui. Il y a actuellement une mission qui est confiée à Mme Bellon pour le travail des seniors. Le taux de chômage jusqu'à 60 ans est bon, de 60 à 65 ans, il n'est pas bon. Deuxièmement, cette mission a pour but de regarder aussi quelles sont les transitions entre le monde du travail et le monde de retraite. Pourquoi la transition progressive, qui est un bon système, ne marche pas ? On me dit que c'est pour un problème d'organisation au sein des entreprises. Ben, cherchons à l'améliorer. La retraite partielle. Mais nous avons aussi perçu le fait que actuellement, quand vous liquidez votre retraite, pour certains, vous avez des règles très contraignantes de cumul emploi-retraite, je pense notamment aux policiers, et pour d'autres, vous continuez à travailler, vous pouvez travailler éventuellement, mais vous n'acquérez aucun droit. Nous avons décidé de proposer dans mon rapport que lorsque vous avez liquidé votre retraite, et l'on pense par exemple à l'âge pivot autour de 64 ans, vous pourriez reprendre un travail et continuer à pouvoir acquérir des droits pour améliorer votre retraite. Ça répondrait à trois obligations. Un, beaucoup d'entreprises cherchent à faire revenir des retraités parce qu'ils ont soit une augmentation brutale d'un bon de commande ou soit des compétences qu'ils n'ont plus au sein de l'entreprise pour des logiciels, etc. Mmh. Deux, ça permettrait de sortir du travail au noir toute une série de personnes qui disent « mais moi ça sert à rien de me payer puisque je paye des droits dont je ne vais pas bénéficier ». Et trois, ça permettrait à des gens qui ont des petites retraites de pouvoir continuer à travailler et de les améliorer. Et donc, oui, Anne, nous allons changer ce système et nous allons faire en sorte, enfin nous proposons que le cumul emploi-retraite puisse continuer à permettre d'acquérir des droits pour améliorer sa retraite.
Question courte et réponse courte, on continue avec, on a des dizaines de mails là-dessus, Monsieur Delevoye qui dit « Les députés de la République et de l'Assemblée nationale sont-ils concernés par l'arrêt de leur régime spécial ? Merci. Qu'en est-il des régimes spéciaux des députés et aussi des sénateurs, etc. etc. ?» Des mails par dizaines. J'en ai d'ailleurs vu beaucoup aussi sur la plateforme, il y a beaucoup de questions de ce genre-là. Donc oui ou non, est-ce que députés, sénateurs sont au même régime, si je puis dire, que nous tous.
La deuxième grande demande sur la plateforme, c'est il faut supprimer les régimes parlementaires et les régimes spéciaux.
Puisqu'on supprime les régimes spéciaux, supprimons les régimes parlementaires.
Et c'est ça qui est intéressant, comme quoi de voir une décision qui a été prise n'est pas du tout perçue dans l'opinion. Les députés, notamment de la majorité, dès leur arrivée, ont demandé à s'aligner sur le régime de la fonction publique. Donc les parlementaires ont déjà pris cette décision. Les sénateurs... pas encore peut-être, en tout cas, je pense qu'ils sont en train d'y réfléchir. Nous aurons la même chose d'ailleurs pour le Conseil économique, social et environnemental. Donc, pour concernant les parlementaires, la réponse est oui, le régime universel les concerne. Pour les régimes spéciaux, le régime universel a pour but d'éliminer tous les régimes spéciaux.
Donc, y compris cela.
Y compris cela, y compris donc la SNCF, la RATP, il y aura quelques spécificités de deux natures. Un pour les artisans, commerçants, avocats, etc. Parce que là, il faut tenir compte de leur équilibre économique. Et certaines fonctions régaliennes, notamment militaires, surveillants pénitentiaires, policiers. Parce que là, le fait de pouvoir aller au-delà d'un certain âge mettrait en péril la politique de sécurité auquel nous sommes les uns et les autres attachés.
Question rapide et réponse rapide, on l'espère, celle d'Emmanuel. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
On vous écoute.
Une question rapide. Est-ce que pour les trimestres acquis pour les enfants, les 4 trimestres de naissance et les 4 trimestres pour l'éducation sont repris d'une façon ou d'une autre dans la nouvelle réforme ?
Donc les fameux 8 trimestres, demande Emmanuel, Jean-Paul Delevoye, sont-ils exactement les mêmes ? Est-ce que quelque chose change là-dessus ?
Alors d'abord, c'est pas la même chose entre le privé et le public. Si vous êtes dans le public, c'est 2 trimestres, dans le privé, c'est 8. 4. Vous avez en même temps aujourd'hui une situation qui fait que lorsque vous avez 3 enfants, vous acquérez les trimestres dès le premier enfant, mais vous n'acquérez pas de majoration de pension. Au 3e enfant, vous avez 10% pour le père, 10% pour la mère. C'est un avantage important pour les hommes, puisque 2/3 des hommes en profitent, et seulement 3 millions de femmes bénéficient de cette majoration. Nous avons proposé dans notre rapport, mais ce sera le débat, de faire en sorte de supprimer ces dispositifs et de faire en sorte que dès le premier enfant, on puisse acquérir 5%, puis deuxième 10, puis 15, 20, etc., etc. Et là, nous passerions de 3 millions à 8 millions de femmes qui toucheraient dès le premier enfant, le deuxième enfant, une majoration de la pension pour les enfants qu'elles ont conçus.
Donc ça veut dire que pour le cas de notre auditrice là, est-ce que quelque chose changerait ? C'était le sens de sa question.
C'est tout le débat que nous avons sur la transition. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand il n'y a pas de majoration de pension, il y a des acquisitions de trimestres. Et c'est là aussi pour beaucoup de femmes qui arrivent à taux plein, avec des trimestres liés au nombre d'enfants. Comme il n'y a pas de majoration de pension, ce sont des droits dits inutiles. Vous acquérez à taux plein, vous avez votre pension, mais elle n'améliore pas ces trimestres. Pour d'autres, effectivement, elle pourrait partir un peu plus tôt, mais il faut voir quel est le niveau de décote qu'il pourrait être. Donc il y a quelques situations sur lesquelles il peut y avoir, par cette disparition de durée, une perte. Les pères de 3 enfants perdent, mais nous l'assumons. Je crois qu'il faut accepter que dans ce projet, il y ait des perdants, il y ait des gagnants, parce que c'est comme ça qu'on fait de la redistribution. Et il est évident que ce sujet que nous l'avons proposé, nous l'avons présenté aux associations familiales. Beaucoup de personnes sont très sensibles au fait que dès le premier enfant, il puisse y avoir une majoration de pension.
Pardon de rebondir là-dessus, mais vous venez de le dire, il faut assumer qu'il y ait des gagnants et des perdants. Sincèrement, M. Delevoye, si vous disiez aujourd'hui, voici quels sont les perdants de cette réforme, vous diriez quoi ? Et voici quels sont les gagnants ?
Alors, dans la redistribution que nous avons indiquée, ceux qui sont avantagés par le système actuel, les carrières ascendantes et longues, c'est dit dans le, vont apporter un effort de redistribution vers les 40% des retraites les plus faibles. Dans la société actuelle,
Sont les perdants, pardonnez-moi,
ceux qui sont avantagés par le système parce qu'ils ont une carrière ascendante et longue, vont redistribuer au profit des carrières des petites retraites. Pourquoi ? Parce que dans le système actuel, c'est ceux qui ont les situations les plus compliquées, les plus précaires, à temps partiel, qui, à la limite, permettent de financer des retraites qui, elles, sont plutôt, pas avantageuses, mais qui correspondent à une vie beaucoup plus facile. Et donc, je crois que le système des retraites est d'abord un système de contrat de génération. C'est un contrat avec la nation, et ce contrat avec la nation fasse que celles et ceux qui sont les plus bénéficiaires puissent aider celles et ceux qui sont les moins favorisés. C'est totalement dans l'ADN de notre projet.
Question courte, encore une fois, et réponse courte, celle de Vincent. Bonsoir Vincent.
Et bonsoir Monsieur le Ministre.
Bonsoir Vincent.
Ce serait une question concernant le rachat de trimestre pour des années d'études supérieures. Quel est l'impact après avec la nouvelle réforme ? Voilà, merci.
Alors, tout à l'heure, vous avez entendu que lorsque je faisais un âge pivot à 64 ans avec l'annulation de la décote qui, au lieu d'être à 67, serait à 64, ça permettrait pour celles et ceux qui ont des carrières courtes, parce que rentrant tard sur le marché du travail avec des études longues, ce qui est de plus en plus fréquent, il y aurait donc un avantage, puisque si on élimine 3 ans, en fait, compte, on élimine 15% de décote. Et donc, c'est une forme quasiment de reconnaissance pour les études longues. Nous avions eu ce débat sur le rachat des études longues que nous avons écarté pour deux raisons. La première, c'est d'abord aujourd'hui, c'est assez onéreux. La seconde, c'est qu'on estime que celles et ceux qui ont des études longues, ont généralement des diplômes, ont donc la faculté de pouvoir acquérir des points beaucoup plus rapidement. Mais le débat que vous évoquiez sur l'arrachat de points est un débat qui est au cœur de nos discussions actuelles.
Donc ça veut dire que la question est toujours ouverte et elle n'a pas été tranchée.
Pas pour des études longues, mais pour des surcotisations.
Il y en a encore beaucoup des questions qui ne sont pas tranchées. C'est le principe aussi du débat. Merci d'y avoir participé.
Merci à vous.
Monsieur Delevoye, merci à tous pour vos très nombreuses questions, comme d'habitude, et très concrètes. Ça nous donnera vraiment l'occasion de le refaire une prochaine fois, puisque elle n'est pas finie cette réforme.
Mais c'est absolument le moins qu'on puisse dire. Sur la plateforme numérique, parce que là, vous avez pouvé apporter vos critiques, vos propositions et m'interroger.
Et il y en a, et vous répondez, d'ailleurs, une fois par mois. Merci beaucoup.